Bonsoir, messieurs, dames. Je suis. Bonsoir, madame. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Je suis extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux ce soir avec nous. Ah ben, je n'ai pas été prévenu. Et donc, cette conférence par Serge Hamet, que je présenterai tout de suite, inaugure la Semaine du cerveau qui a lieu tous les ans ici à Poitiers en partenariat avec l'Espace Mendès France depuis maintenant une dizaine d'années, grâce entre autres à Christine Guiton avec qui nous collaborons depuis des années. Cette Semaine du cerveau va aussi être le prélude d'une nouvelle exposition autour du cerveau. Comme vous pouvez voir ici, nous avons fait une exposition sur le cerveau à Mendès France à tous les âges. Il semblerait qu'elle a eu un succès certain, donc il a duré jusqu'à 5 janvier. À partir d'avril, il y aura une nouvelle exposition qui sera prise en charge par Marcello Solinas, qui est chercheur INSERM, CNRS, au sein de mon laboratoire INSERM. Et donc, cette nouvelle exposition sera tournée autour de l'addiction. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a invité notre collègue Serge Hamet ce soir pour nous faire une conférence inaugurale. Donc, je ne sais pas si ça se voit, mais Serge et moi, nous sommes de la même génération. Je ne sais pas qui a vieilli mieux que l'autre. C'est toujours le beau Serge pour moi. Donc nous avons fait notre master ensemble, nous avons fait notre thèse ensemble dans des laboratoires voisins et nous avons eu une carrière, je dirais, parallèle. Pour faire un rappel de ce que... Bon, Serge, il est directeur de recherche CNRS dans une unité CNRS à Bordeaux. Et à Bordeaux, le maire, c'est Alain Juppé. Et Chirac disait d'Alain Juppé que c'était le meilleur d'entre nous. Et moi, j'ai la même impression sur Serge. C'était quand on était étudiant et c'est toujours le meilleur d'entre nous. Et je suis extrêmement heureux qu'il ait pu accepter notre invitation. C'est un excellent conférencier. J'espère qu'il sera à la hauteur ce soir. Je ne sais pas, mais on a... Mais c'est un excellent conférencier et je suis sûr qu'il va beaucoup vous intéresser. Je ne vais pas être plus long parce que je suis sûr qu'il a beaucoup de choses intéressantes à vous dire. Je reprendrai le micro à la fin pour interagir avec la salle. Encore merci pour votre présence et merci Serge d'avoir accepté notre
invitation.
Merci
beaucoup Mohamed pour ta présentation. Merci à vous tous d'être là ce soir. Je voudrais également remercier les organisateurs de cette intervention. Madame conférence, madame exposition, mes amis Mohamed Jaber et Marcello Solinas et mes collègues également. Donc, comme on vous l'a dit, donc ce soir, je vais vous parler de cerveau, de récompense et de drogue. Et donc, je vais commencer par vous finalement vous présenter ce qu'il faut entendre par le terme récompense. Et ça me permettra de vous définir ce qu'est le circuit de récompense dans le cerveau, qui est finalement la cible de toutes les drogues d'abus que l'homme utilise. Et ça me permettra également de vous parler du cerveau, parce que finalement, c'est l'organe qui nous intéresse le plus au cours de cette semaine qui est consacrée entièrement au cerveau. Donc alors, très simplement... qu'est-ce que la récompense? Je ne me suis pas beaucoup embêté. J'ai pris finalement un dictionnaire, j'ai ouvert le dictionnaire, j'ai trouvé cette définition. Qu'est-ce que la récompense? C'est un don qu'une personne reçoit d'une autre personne en échange d'un service rendu, d'un mérite ou d'un résultat. Donc là, j'essaie de vous illustrer un certain nombre d'exemples. C'est par exemple les encouragements qu'un enfant va recevoir de ses parents lorsqu'il va faire ses premiers pas, lorsqu'il va prononcer ses premiers mots. Ça peut être un regard, un sourire, une attention. La récompense, ça peut être également la médaille que reçoit un champion au cours d'une compétition. La récompense, ça peut être pour un scientifique la reconnaissance par ses collègues et par ses pairs. Et à chaque fois, ce phénomène de récompense est associé à une satisfaction, à un plaisir, à une émotion positive. Et de manière plus générale, finalement, la récompense, c'est l'effet général que ça va produire, finalement, c'est de faire en sorte que le comportement qui a conduit à cette récompense se reproduit, se répète en fait dans le temps. La récompense est finalement ce qui va nous pousser à répéter un comportement finalement dans le futur. Et donc la fonction principale finalement de ce circuit de la récompense qu'il y a dans le cerveau, c'est finalement de nous amener à répéter des comportements et donc de nous amener à apprendre aussi de nouveaux comportements qu'on va chercher à répéter finalement dans le futur. Et de manière importante, malgré l'évolution en fait au cours des millions d'années du cerveau, on peut constater que le système de récompense, hein, du poisson en passant par les reptiles, les amphibiens, les rongeurs, les primates jusqu'à l'homme, que finalement le cerveau il a beaucoup changé, mais le système de récompense, lui, est resté relativement bien conservé d'une espèce à l'autre, ce qui nous permet finalement de pouvoir étudier ce circuit de la récompense dans plusieurs espèces animales et de réaliser des expériences de laboratoire chez les animaux pour étudier son fonctionnement. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous décrire une toute petite expérience hein, qui fait intervenir un phénomène de récompense au laboratoire. C'est une expérience, on va dire, de base, prototypique, hein, qu'on peut réaliser dans des milliers de laboratoires aux quatre coins du monde. Hein. Donc, ça implique en général un expérimentateur qui n'est pas représenté sur cette diapositive, une cage de conditionnement et un animal de laboratoire, généralement une souris ou un rat de laboratoire, qui est totalement naïf hein, par rapport à l'expérience. Et donc l'expérimentateur, son but, c'est de programmer en fait une relation entre un événement qui est ici donc, appuyé sur ce levier, hein, c'est une sorte de pièce métallique rectangulaire, et l'appui sur ce levier va déclencher, grâce à un ordinateur, en fait, l'alimentation d'un abreuvoir avec de l'eau sucrée. Ça peut être également toute autre forme de récompense, mais l'eau sucrée, ça marche très bien chez les souris ou les animaux, les rats de laboratoire. Ils ont le bec sucré autant que finalement l'homme. Et donc l'animal est totalement naïf au départ. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va explorer son environnement et par hasard, il va finalement s'approcher, renifler, contacter le levier. Et là, en contactant le levier, en fait, il va y avoir une goutte d'eau sucrée qui va être délivrée sur cet abreuvoir. Quelques secondes plus tard, l'animal va boire cette eau sucrée, mais il ne va pas tout de suite comprendre que c'est son comportement d'appui sur le levier qui a déclenché en fait cette récompense. Et donc ça, c'est ce qu'il va faire le premier jour. Il va appuyer une fois, quelques minutes plus tard, une deuxième fois, mais n'ayant pas tout à fait compris le phénomène, donc ça ne va pas se répéter. Mais le système de récompense s'est mis en marche. Et dès le lendemain, en fait, lorsqu'on reteste l'animal, on voit que la fréquence de ce comportement, hein, par ces barres verticales que je vous ai représentées ici, va augmenter. Et au bout du troisième jour, en fait, l'animal va appuyer de manière très fréquente sur le levier. Et c'est exactement ça, en fait, ce phénomène de récompense. C'est donc la fonction de circuit de récompense, c'est finalement donc de permettre à un organisme d'apprendre à travers son comportement à changer son environnement pour finalement obtenir une conséquence positive qui est ici du plaisir, mais ça pourrait être finalement de la nourriture ou de l'eau, donc quelque chose qui est fondamental pour sa survie. Et donc si vous réfléchissez bien à ce phénomène de récompense, ça implique plein finalement de mécanismes et de processus psychologiques et neurobiologiques très compliqués, on va en parler tout à l'heure. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que ce phénomène de récompense qui nous pousse à répéter des comportements qui ont des conséquences positives peut être détourné par les drogues qui, en agissant de manière très puissante sur ce système de récompense, peut nous amener finalement à répéter des comportements chez certains individus de manière excessive à tel point que ça se fait au détriment d'autres activités important pour le développement personnel de la personne et pour finalement son insertion dans le monde et dans la société. Mais avant de vous parler de ça, avant de vous parler du système de récompense, je voudrais, c'est quand même le sujet de cette semaine, vous parler du cerveau, prendre un peu de recul. Ça nous permettra ensuite de mieux resituer le système de récompense au sein du cerveau et de mieux comprendre en fait comment il fonctionne au niveau neurobiologique. Alors, le cerveau, c'est, comme vous le savez, l'organe, l'objet le plus complexe de l'univers connu. Et je dis connu, j'insiste connu, on en a parlé ce soir au dîner, parce que bon, ben, l'univers, comme vous le savez, on n'en connaît qu'une toute petite, une infime partie, on ne sait jamais, peut-être qu'on découvrira un jour une une vie extraterrestre avec une intelligence et un cerveau, ou l'équivalent d'un cerveau bien plus complexe que le nôtre. Mais bon, pour l'instant, le cerveau humain est l'objet, il faut le dire, hein, le plus complexe de l'univers. Donc ce cerveau contient 170 milliards de cellules, dont la moitié sont des cellules nerveuses, que l'on appelle également des neurones. Donc c'est à peu près 86 milliards de neurones dans 1 litre à 1 litre et demi de volume cérébral, d'accord ? Ça pèse entre 1,2 et 1,5 kg chez un être humain adulte. Ce qui fait qu'il y a à peu près, on va dire, 80 000 neurones dans un petit millimètre cube, en fait, de cerveau. De manière importante, donc, les neurones sont finalement comme n'importe quelle autre cellule. Ils ont un noyau qui contient du matériel génétique, hein, toutes les instructions nécessaires pour la construction, le développement et l'identité finalement de la cellule. Un cytoplasme dans lequel va se dérouler toutes les opérations biochimiques nécessaires au fonctionnement de la cellule. Mais ce qui va différencier le neurone des autres cellules, c'est que le cytoplasme a des prolongements qui lui permettent finalement de contacter d'autres neurones et parfois à plusieurs dizaines de centimètres hein, du corps cellulaire. On estime que chaque neurone va contacter 10 000 autres neurones et que les points de contact qu'il y a environ 10 000 points de contact entre chaque neurone du cerveau. Ces points de contact, hein, on appelle ça des synapses. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près, pour les synapses chimiques, entre 20 et 40 nanomètres d'espace entre les deux cellules. D'accord ? C'est tout petit, tout petit. Si on fait un calcul rapide, donc on a 86 milliards de neurones, ça nous fait 1 million de milliards de synapses dans le cerveau humain. Et là, vous commencez à toucher un petit peu de la complexité dont je vous parlais tout à l'heure. Et à cette complexité-là s'ajoute le fait que toutes les synapses ne sont pas identiques les unes avec les autres. On estime qu'il y a environ une centaine de neurotransmetteurs différents dans le cerveau humain. Donc vous rajoutez à cette complexité, ce nouveau niveau de complexité qui est la diversité des éléments de communication chimique qui existent entre les neurones. Alors, juste pour vous donner maintenant, on va dire, un certain nombre d'idées pour bien, on va dire, appréhender cette complexité, si je prenais chacun de mes neurones et que je les mettais bout à bout les uns vis-à-vis des autres, ça me permettrait finalement de faire 5 fois le tour de la Terre. Donc c'est pour vous dire la quantité de câblage neuronal que j'ai dans mon cerveau. D'accord ? Si par exemple je prenais ton cerveau et le mien et qu'on mettait tous nos neurones les uns après les autres, ça nous permettrait de couvrir la distance moyenne qui est entre la Terre et la Lune, ce qui est à peu près 380 000 km. Donc vous vous rendez compte hein, de la distance de câblage qu'a dans le cerveau. Si on passait ne serait-ce qu'une seconde, et une seconde, c'est pas long, une seconde, pour étudier chaque synapse de notre cerveau, il nous faudrait 27 millions d'années pour finalement toutes les étudier. Donc ça vous dit, ça vous explique aussi pourquoi finalement, malgré tout ce qu'on sait, on ignore encore énormément de choses sur le fonctionnement du cerveau. Et en particulier, ce que on a du mal encore à bien cerner, c'est que finalement, 86 milliards de neurones connectés avec 1 million de milliards de synapses. Chaque neurone et chaque synapse, en soi, il n'y a pas plus bête et stupide que ça. Bon, neurone, c'est quand même assez intelligent. Mais grosso modo, je veux dire, quand on prend un neurone isolément, c'est aussi stupide que, finalement, une puce électronique. Comment se fait-il que cet assemblage de milliards de neurones connectés à travers ce million de milliards de synapses puissent donner naissance à cette chose extraordinaire qui est la pensée, la conscience, les émotions, la mémoire et les phénomènes de récompense dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord ? Ça, c'est le grand mystère. Alors, bien sûr, une partie de ce mystère, on a un peu levé le voile sur une partie de ce mystère, puisque donc, ce milliard ces milliards de neurones ne sont pas connectés n'importe comment, ne sont pas connectés aléatoirement. Ce n'est pas un coup de dé qu'on lance pour déterminer les connexions entre les différents neurones. En fait, il existe un ordre de connexion entre ces différents neurones dans le cerveau et on a, au cours du siècle passé, réussi à, on va dire, déterminer la carte neuronale commune à tous les êtres humains, d'accord ? C'est-à-dire la carte des voies neuronales qui connectent toutes les grandes régions du cerveau et que je vous ai grosso modo représenté sur cette jolie image. Donc juste pour vous donner quelques exemples, ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement il y existe des grands macrosystèmes dans le cerveau qui sont spécialisés dans certaines fonctions, la perception, la mémoire, l'attention, le langage, les phénomènes de récompense dont je vous parlais tout à l'heure, la perception des états internes de notre corps, et j'en passe, d'accord ? C'est très bien d'ailleurs illustré sur cette image ici, hein, où chaque morceau du camembert, finalement, représente en fait une part du cerveau qui est dédiée à une fonction, une activité particulière. Donc juste pour vous donner, on va dire, grosso modo, hein, une idée de ce câblage, donc on va d'abord partir de l'environnement, donc par exemple, on va s'intéresser à la vision. Donc dans notre œil, nous avons la rétine, qui est un organe récepteur spécialisé, qui est en charge de percevoir des ondes lumineuses. Donc ces cellules, une fois qu'elles sont activées, vont, à travers plusieurs neurones, contacter un relais dans le tronc cérébral, ensuite le thalamus et le cortex visuel. Au niveau du cortex visuel, en fait, on va avoir des traitements de l'information visuelle plus poussés qui vont entrer en relation avec, finalement, de l'information qui est stockée dans notre mémoire, qui est à peu près localisée au niveau du lobe temporal. Et à l'intérieur de ce lobe temporal, on a également une structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est très importante dans les phénomènes de mémoire, qui fait que lorsque je vous perçois, par exemple, je vais m'arrêter sur un de vos visages, je vais me dire, ah ben tiens, ce visage-là me rappelle quelqu'un que j'ai déjà rencontré, une personne qui m'est familière. Donc ça va finalement évoquer de l'activité dans ce lobe temporal. Et tiens, c'est une personne que j'aimais bien. Et donc ça va activer une autre structure qui est ici, toujours dans le lobe temporal, qu'on appelle amygdale, qui est en charge de donner finalement la couleur émotionnelle à nos perceptions. Ça, c'est de l'environnement vers le cerveau. Mais le cerveau, bien sûr, n'est pas simplement passif, il ne reçoit pas que de l'information dans son environnement, il agit et modifie et influence l'environnement grâce aux actions. Et ces actions, en fait, elles débutent au niveau du cortex préfrontal, c'est là qu'on planifie, on voit dans le futur, on imagine différents scénarios dans notre existence, c'est là où on va envisager plusieurs options, que l'on va prendre nos décisions, on va faire le pour et le contre, on va peser le bien et le mal, etc. Et donc, une fois que tout ça s'est fait, le cortex préfrontal va influencer des neurones qui sont au niveau du cortex moteur, qui, eux, je simplifie beaucoup, vont agir directement sur des motoneurones qu'il y a dans la moelle épinière et finalement contrôler nos muscles squelettiques et faire que notre corps va agir sur son environnement d'une manière intentionnelle et motivée. Alors ça, c'est les grandes lignes, on va dire, de l'organisation cérébrale. Mais ce qu'on aimerait vraiment savoir, et ce qui est, on va dire, qui n'est toujours pas à la portée de notre connaissance, ce que moi, j'aimerais vraiment savoir, c'est comment, quelle est la carte neuronale individuelle ? Quelle est ma carte neuronale ? C'est-à-dire, quelle est exactement la façon dont mes dizaines de milliards de neurones sont connectés avec les uns avec les autres et comment ma carte neuronale individuelle est différente de celle du professeur Jaber ou de vous, de telle manière à ce que lorsque je vais contraster ces cartes neuronales à ce niveau d'échelle de résolution, à la synapse près, je vais pouvoir finalement mieux comprendre quelles sont, en tout cas entrevoir, quelles sont les bases neurobiologiques de nos différences de goût, de personnalité. Peut-être même qu'on arriverait à un niveau de résolution où on pourrait dire, bah, tiens, il a stocké telle information, hier soir il est allé manger au McDo, où il a fait telle ou telle chose, etc. Avoir ce niveau de résolution-là, Et ça, honnêtement, ce serait un énorme pas dans la compréhension de comment justement ces dizaines de milliards de neurones connectés les uns avec les autres, finalement, sont capables de produire cette chose extraordinaire qui n'a pas de précédent dans l'univers, qui est la pensée et la conscience. Mais bien sûr, ça nous permettrait également de mieux comprendre finalement les désordres de la pensée, du comportement, les grands troubles psychiatriques. Donc ça nous permettrait de mieux comprendre finalement quelles sont les bases neurobiologiques de la schizophrénie, de la dépression, de l'autisme, et bien sûr des addictions, qui est le sujet un petit peu de la conférence de ce soir. Alors pourquoi on n'y arrive pas ? Eh bien parce que finalement, parce que le niveau de résolution qu'il faudrait exigerait tout simplement, pour ne serait-ce que stocker ma carte neuronale individuelle à moi, à un instant donné, T, hein, je ne parle même pas de fonctionnement, de dynamique d'activité, il faudrait la moitié, un supercalculateur n'y suffirait pas, il faudrait la moitié des capacités de stockage de disque dur sur la planète actuellement. Donc vous imaginez donc la complexité du truc, hein, d'accord ? Donc, alors, je ne voudrais pas vous donner l'impression que cette carte neuronale individuelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, finalement, c'est quelque chose de figé. Non, ça bouge, ça ne cesse de changer. Au moment où je vous parle, ma carte neuronale individuelle est en train de se réorganiser, de se remodeler en fonction des nouveaux visages, des émotions que je suis en train de ressentir. Vos cartes neuronales individuelles, je l'espère en tout cas, sont en train de changer du simple fait, finalement, de mes paroles et de ce que je peux évoquer en vous au moment où je vous parle. D'accord ? Et ça, cette plasticité, elle est liée au fait que les synapses dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles ne sont pas figées, elles bougent, elles vivent. Il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Et celles qui persistent, en fait, vont être modulées dans leur fonctionnement en plus ou en moins. Ce qui donne à notre cerveau une formidable plasticité finalement qui nous permet d'apprendre de nouvelles choses, soit au niveau des connaissances, soit au niveau de nos comportements, de nos pratiques, de nos savoir-faire, etc., etc. D'accord ? Et vous allez me dire, mais et dans tout ça, et le système de récompense dans tout ça ? Eh bien justement, le système de récompense, et c'est pour ça que j'ai fait tout ce détour, une des fonctions principales du système de récompense du cerveau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est justement d'organiser cette plasticité synaptique dans des régions du cerveau qui sont éminemment importantes pour, finalement, les apprentissages de nouveaux comportements dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont si importants pour notre adaptation à l'environnement. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est ce système de récompense ? Donc de manière très schématique, en fait, c'est un ensemble de neurones que je vous ai représenté de manière symbolique par ce gros neurone unique en rouge ici. Donc il y en a à peu près 1 million donc c'est des neurones qui utilisent comme neurotransmetteurs la dopamine. Et on estime qu'il y a environ 1 million de ces neurones finalement dans un cerveau humain, ce qui représente pas beaucoup de neurones, somme toute, par rapport aux milliards de neurones dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais une des particularités de ces neurones, c'est qu'ils sont très regroupés dans une région que l'on appelle le mésencéphale. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont projeter de manière très diffuse vers les différentes parties antérieures du cerveau et vont irriguer ces régions avec de la dopamine. Et cette dopamine va finalement orchestrer les phénomènes de plasticité synaptique dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui va faire que justement, on va, en fonction des circonstances, répéter plus ou moins des nouveaux comportements qu'on a appris et qui auront été récompensés. D'accord ? Alors, comment ça marche exactement ? Donc, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc là, je vous ai représenté, donc c'est une expérience, donc pour vous donner un exemple, finalement, de plaisir et de récompense qu'un cerveau humain peut ressentir. Donc c'est une jeune fille, elle a des écouteurs, elle est en train d'écouter un morceau de musique qu'elle apprécie. Et ce qu'on fait, c'est que pendant ce temps-là, en fait, on enregistre ces taux de dopamine de manière indirecte dans son cerveau et dans cette région de projection ici, qui est finalement le striatum, mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et de manière très intéressante, on constate que lorsqu'elle écoute des passages de musique qui la font frissonner, qui créent en elle des émotions très fortes, en fait, à ce moment-là, en fait, on a des augmentations de dopamine dans ces régions du cerveau. D'accord ? Et c'est probablement cette augmentation de dopamine qui va orchestrer finalement le fait que cette personne va vouloir répéter ce comportement finalement dans le futur et peut-être prolonger ces moments justement agréables où elle va écouter de la musique, etc. Alors, je ne vais pas développer cet exemple de la musique plus longuement puisque la musique finalement c'est quelque chose d'assez mystérieux. Comment ça fait pour créer finalement des émotions ? On a encore du mal à comprendre exactement comment des sons peuvent créer tant d'émotions chez l'être humain, c'est un grand mystère. Mais je vais prendre un autre exemple qui va nous parler tous, hein, c'est le plaisir de manger. Hein. Et tout à l'heure, on a eu une bonne tarte aux pommes au caramel, c'était avec de la chantilly, c'était vraiment très très bon. Donc du coup, ça m'a donné beaucoup d'énergie et de glucose pour vous parler là ce soir. Donc là on va parler du plaisir de manger, et en particulier le plaisir de manger le plaisir du goût sucré, d'accord ? Et donc en fait, dans ce plaisir du goût sucré, on a deux composantes, on a deux récompenses, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Donc la première récompense est quasiment immédiate, c'est lorsque vous percevez le goût sucré, hein, vous avez des cellules dans la bouche qui sont connectées à des neurones que je vous ai représentés très succinctement ici et qui eux-mêmes sont connectés aux neurones dopaminergiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en une fraction de seconde, lorsque tout à l'heure je mangeais cette tarte hein, et avec ce caramel, ces pommes bien cuites, etc. et cette chantilly, en fait, j'avais une activation au niveau des neurones dopaminergiques. Ça crée des potentiels d'action qui sont propagés vers l'avant du cerveau et lorsqu'ils arrivent au niveau des terminaisons neuronales, ça va libérer de la dopamine dans la synapse dopaminergique. D'accord ? Et à cet endroit-là, cette dopamine va finalement moduler les phénomènes de plasticité qui vont avoir lieu dans cette région et qui vont connecter les comportements que j'ai réalisés juste avant avec cette conséquence et qui va faire que je vais répéter ce comportement. Je vais avoir envie de répéter ce comportement. Hein. Donc, si j'avais pu manger dans l'assiette de Mohamed, j'aurais fait volontiers. Non, je rigole. Donc, ça, c'est la première récompense. Donc, ensuite, il y a une deuxième récompense. On est un peu moins conscient de ça puisque ça a été découvert relativement récemment. C'est un très joli papier qui est sorti il y a 2-3 mois. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça fait quoi, 10-15 minutes que j'ai mangé cette tarte. Donc du coup, là, en ce moment, j'ai une forte augmentation de glucose dans mon sang. Et ce glucose, en fait, va remonter au niveau du cerveau. Et il va influencer des cellules dans mon hypothalamus. Je ne rentre pas dans les détails. Ces cellules ont des récepteurs sensibles, spécifiques à ce glucose. Et à la réception de ce glucose, elles vont se mettre en activité. Et elles vont aller influencer également l'activité des neurones dopaminergiques. Et on a pu montrer, grâce à des travaux chez la souris, que si on les rend aveugles au goût sucré, mais qu'on conserve ce deuxième pic dopaminergique, il est suffisant en lui seul pour créer et orienter les préférences alimentaires de l'animal. D'accord ? La souris ne peut plus percevoir le goût sucré, mais ça ne l'empêche pas de savoir où il y a du sucre et où il n'y en a pas. D'accord ? Donc maintenant, je vous demande juste d'imaginer, on rajoute, comme vous le savez, on rajoute du sucre dans à peu près tous les produits. Actuellement, on parle même maintenant d'édulcoration du monde, d'accord hein, vous êtes au courant de ça. On retrouve même du sucre dans des aliments qui n'ont pas forcément un goût sucré en tant que tel. Alors bien sûr, on peut imaginer plein de raisons pour rajouter ce sucre. Moi, je soupçonne qu'une des raisons, c'est justement d'établir, de consolider, d'orienter vos préférences alimentaires et de vous faire en sorte que vous avez y retourner sans trop savoir pourquoi, parce que ça, on n'y est pas forcément conscient au niveau de ce deuxième pic dopaminergique. Alors, à ce stade-là, en tant que bon scientifique, on pourrait se poser la question, oui, mais bon, très bien, ce que vous nous avez montré jusqu'à présent, c'est très joli, mais c'est la vieille question de la causalité, de la relation de cause à effet. Vous nous avez montré des comportements, vous avez enregistré en même temps des changements dans le cerveau, mais qui nous dit que les activations dopaminergiques dont vous vous parlez sont vraiment responsables, sont vraiment la cause de ce phénomène de récompense comportementale dont vous nous bassinez depuis le début de cette conférence. Eh bien, en fait, on peut démontrer ça. Et alors, on peut le faire de plusieurs manières différentes. J'ai choisi de vous le montrer avec une série d'expériences très récentes qui utilisent une nouvelle technologie qu'on appelle l'optogénétique et qui permet finalement, donc, comme vous le savez peut-être, certaines bactéries en fait, ont développé des protéines sensibles à la lumière. Et lorsque, par exemple, ces protéines sont frappées par une lumière d'une certaine longueur d'onde, la protéine va faire en sorte qu'il va y avoir une entrée d'ions dans la cellule, c'est-à-dire de molécules chargées ou d'atomes chargés positivement ou négativement, et qui vont changer le potentiel électrique de la cellule. D'accord ? Et donc, grâce à des techniques de transfection virale, on est capable de faire exprimer ces protéines dans les neurones dopaminergiques et que dans les neurones dopaminergiques. D'accord ? Et ensuite, quand on descend une fibre optique dans cette région et qu'on envoie cette lumière à cette longueur d'onde, on peut intervenir sur cette protéine et changer finalement l'activité électrique des neurones dopaminergiques et d'aucun autre neurone. Et grâce à cette technique, ça nous permet finalement de déterminer si l'activation des neurones dopaminergiques suffit à elle seule pour créer finalement un phénomène de récompense comportementale. Et donc là, je vais vous décrire une expérience très simple qui a été en fait réalisée chez des souris. Mais là, je vous le montre à travers un exemple chez un rat. Donc ça, c'est une cage donc à peu près identique à celle que je vous ai décrite au tout début de ma présentation. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on crée un programme, lorsque l'animal appuie sur le levier, que vous ne voyez peut-être pas ici, ça va finalement envoyer cette lumière dans les neurones dopaminergiques. Et donc si cette activation suffit elle-même pour créer le phénomène de récompense, vous devriez vous attendre à ce que l'animal répète le comportement comme il le faisait quand il buvait de l'eau sucrée. D'accord ? Et c'est exactement ce qui se passe. C'est ce que je vous ai représenté ici avec ces petites barres verticales. Vous voyez, donc après quelques jours, en fait, c'est assez rapide, en 2-3 séances, l'animal comprend vite la relation entre l'appui sur le levier et la stimulation directe des neurones dopaminergiques dans son cerveau. D'accord ? Alors tout ça, ça va nous amener finalement à la question des drogues. Donc les drogues, eh bien finalement, ça fait un peu comme, très schématiquement, cette activation des neurones dopaminergiques qui court-circuite tout le reste. D'accord ? Donc là, ce que font les drogues, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la drogue envisagée, que ce soit du cannabis, de la cocaïne, de l'alcool, la nicotine dans les cigarettes, de la méthamphétamine, toutes les drogues que vous pouvez imaginer qui font l'objet d'un abus et qui peuvent conduire à une addiction chez certains individus, toutes ces drogues, d'une manière ou d'une autre, vont modifier le fonctionnement des neurones dopaminergiques du cerveau. D'accord ? Donc certaines drogues vont modifier l'activité électrique des neurones dopaminergiques au niveau des corps cellulaires, par des processus plus ou moins directs, et d'autres drogues, comme la cocaïne, et nous le savons grâce en particulier aux travaux de Mohamed Jaber, vont agir au niveau des terminaisons neuronales dopaminergiques et créer, en fait, en agissant sur une protéine qui va réguler les taux de dopamine dans la synapse, bloquer ce mécanisme et créer une accumulation de dopamine dans le cerveau. Et cette augmentation va donc amplifier le signal dopaminergique de récompense et faire que la personne va vouloir répéter ce comportement, finalement, qui va conduire à cette augmentation dopaminergique. D'accord ? Donc là, je vais développer un peu plus dans le détail l'exemple de la cocaïne, puisque Mohamed Jaber avec Bruno Giros, c'est eux qui ont découvert ce mécanisme. En temps normal, lorsque donc un potentiel d'action arrive au niveau des terminaisons dopaminergiques, il y a une augmentation de dopamine dans la synapse. Mais pour que ça crée de l'information, il faut que ce soit inactivé assez rapidement. D'accord ? C'est comme la musique. Pour qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait du silence, des pauses, etc. Donc pour la neurotransmission dans le cerveau, c'est la même chose. Pour qu'il y ait du signal, il faut qu'il y ait des moments où il n'y a pas de signal. Et donc le mécanisme principal d'inactivation de la dopamine, c'est sa recapture dans la terminaison neuronale. grâce à un transporteur à la dopamine. Hein, on appelle ça le transporteur à la dopamine. Donc qu'est-ce que fait la cocaïne ? La cocaïne agit sur ce transporteur, bloque son fonctionnement, et comme vous le voyez, ça crée une accumulation de dopamine dans l'espace synaptique, et donc grosso modo, c'est comme si on disait au cerveau « big récompense », d'accord ? Grosse, grosse récompense. Et donc du coup, ça donne envie de répéter finalement le comportement qui a conduit à la consommation de cocaïne. Alors comment on fait pour le démontrer ? Donc il y a la stratégie qu'avait utilisée Mohamed, c'était finalement de créer des souris génétiquement modifiées, donc qui n'ont plus le transporteur à la dopamine, et de voir finalement comment cette absence de transporteur peut finalement être responsable des effets de la cocaïne. Donc je vous passe les détails de toutes les expériences qui ont été réalisées, mais effectivement, on a été montré ainsi que ce transporteur à la dopamine est effectivement la cible clé des effets de la cocaïne sur le cerveau. Sans ce transporteur, il n'y a pas de récompense cocaïne. D'accord ? Donc c'est la cible moléculaire première des effets récompensants de la cocaïne dans le cerveau. Et donc, je pourrais, et ça on pourra le voir au niveau des questions, et je pense que Marcello pourra vous donner aussi beaucoup d'informations sur les autres cibles moléculaires des drogues dans le cerveau, et en particulier du cannabis. Mais ça, je le garde pour le cerveau, pour tout à l'heure, pour la discussion de tout à l'heure. Là, ce que je voudrais maintenant, je voudrais terminer en concluant quand même sur une note un peu positive. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas, bien sûr, à la merci de notre système de récompense. D'accord ? Nous avons développé, parce que si, on est d'accord que si ce système de récompense fonctionnait seul, sans contrôle, nous serions très rapidement à la merci de ce fonctionnement, puisque c'est lui qui orchestre finalement ces phénomènes d'apprentissage par récompense. D'accord ? En fait, nous avons développé des mécanismes de contrôle inhibiteurs qui vont finalement contrôler le fonctionnement du système de récompense grâce à notre système préfrontal très développé chez l'homme, hein, beaucoup plus que chez tous les autres animaux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce système préfrontal, c'est justement celui qui nous permet de voir loin, d'imaginer des scénarios possibles finalement d'existence, d'accord, qui nous permet d'entrevoir qu'on a plusieurs options, qu'on a plusieurs opportunités, que le monde n'est pas fermé, d'accord, qui nous permet finalement d'agir en ayant le futur en tête et en renonçant aux récompenses immédiates, d'accord, à la gratification immédiate. Et donc, ce système se développe relativement tôt, ce système de contrôle cortical du fonctionnement de récompenses se développe très tôt. Et là, je vous ai présenté une expérience qui est très célèbre et qui a été réalisée par un psychologue américain, je crois qu'au milieu des années 60. Donc, c'est une expérience très rigolote, un peu perverse, quelque part, finalement. Donc, dans laquelle, finalement, on propose à un enfant, là, je crois qu'il a 4-5 ans, un marshmallow. Et le deal est très simple, on lui dit, si tu... Donc, je vais revenir, hein, si tu attends mon retour, sans manger le marshmallow, je t'en donnerai un deuxième. D'accord ? Donc, grosso modo, ce qu'on lui demande, c'est de résister à la tentation immédiate pour avoir une plus grosse récompense dans le futur. C'est ce qu'on fait tous les jours, quelque part. Hein ? Enfin, pas tout le temps, heureusement. Et donc là, ce que je vous ai représenté, c'est finalement la photo de cet enfant à différents moments de cette attente qui semble interminable. Et donc là, au début, il est assez patient. Ça commence à être un peu difficile et là, il craque, quoi. Il n'en peut plus, quoi. Mais il a quand même tenu 8 minutes. Un singe et un rat ne tiendraient pas 2 minutes. D'accord ? Un rat, ça tient à peine 20 secondes. 20 secondes. Ah oui, c'est... Ça voit pas très loin. Hein. Une souris, n'en parlons pas. Donc, on va dire, une de nos spécificités à nous, les êtres humains, c'est ça, c'est de voir loin dans le futur. Et cette capacité de voir loin dans le futur et de prendre le futur en considération dans nos actions, c'est ce qui nous rend libres et nous permet finalement de pouvoir échapper au diktat du système de récompense que si on écoutait que notre système de récompense, on n'aurait pas créé finalement le monde dans lequel on vit aujourd'hui. D'accord ? Mais quand même, on a Mais quand même, c'est dans le monde dans lequel on vit, dans cette société dans laquelle on vit, en fait, ce système de récompense est quand même sollicité en permanence, d'accord ? Et donc, du coup, on est tout le temps en train d'utiliser notre cortex préfrontal et c'est fatigant à force, d'accord ? Ça peut même être stressant. Là, je vous ai juste montré un exemple. Hein, c'est un exemple presque de tous les jours, en tout cas, une certaine époque, lorsque voilà, la tentation de la cigarette, la tentation de ces mets savoureux, de ces gâteaux, de ces boissons sucrées, de tout ce que vous pouvez imaginer, la tentation de l'alcool et du plaisir facile. Enfin, on peut imaginer plein de tentations tous les jours, on en a. Hein. Tous les jours, on doit faire face à cette situation et on y fait face grâce à notre cortex préfrontal. D'accord ? Je vais vous montrer maintenant une expérience qui met en évidence l'activation de ce cortex préfrontal au moment où nous sommes en train de résister finalement à la récompense. Et donc là, c'est donc une situation très simple où on a demandé à des individus, on les a mis face finalement à un aliment qu'ils adorent. Alors je vous demande d'imaginer l'aliment que vous adorez en particulier. Donc après le dîner, c'est pas très parlant. Si j'avais fait le truc avant le dîner ou avant le déjeuner, ça aurait été mieux. Mais bon, imaginez juste ça. Eh bien, si je vous présente cette photo alors que vous avez faim et que je mesure l'activité dans votre cerveau, je suis sûr que je vais trouver une activation au niveau des parties ventrales du striatum et également au niveau de votre hypothalamus et aussi dans d'autres régions. D'accord ? Par contre, si au même moment je vous présente la photo, mais je vous dis, bon, vous la regardez, et j'ai une façon de vérifier que vous la regardez bien, d'accord ? Mais je vous demande de prendre du recul par rapport à cette photo, de pas succomber, quoi, d'essayer de penser à autre chose, de prendre de la distance, etc. Donc du coup, d'y résister, d'y résister, d'accord ? Eh bien, lorsque je fais ça, cette activation disparaît totalement, d'accord ? Mais au même moment, ce que je vois, c'est une activation au niveau de votre cortex préfrontal. Donc, et par des analyses poussées, on peut même prouver que, et donc du coup, cette disparition d'activation dans le striatum est associée à une chute du désir de manger, qui était normalement créé par la vue de la photo, d'accord, de l'aliment préféré. Et on a pu montrer, par des analyses poussées, que cette suppression corticale de l'activité striatale était bien responsable de la suppression du désir de manger, d'accord, de cette tentation de manger, d'accord. Alors pour finir, on n'est bien sûr pas tous égaux vis-à-vis de ces capacités de contrôle. Et on a pu montrer dans des études récentes, chez des enfants chez qui on avait mesuré leur capacité de résistance à la tentation grâce au test du marshmallow 30 ans auparavant, on a pu observer que ces enfants, 30 ans plus tard, ceux qui avaient le plus de difficultés à attendre la grosse récompense, étaient ceux qui avaient expérimenté plus de drogue que les autres. C'est ceux qui avaient arrêté l'école plus tôt. C'est ceux qui avaient plus de difficultés sociales et plus de, finalement, de problèmes liés au surpoids et de complications médicales. D'accord ? Tout ça pour vous dire que des différences dans ces fonctions de contrôle cortical qui, bien sûr, vont se traduire par un contrôle du système de récompense sur vos comportements plus faibles, et donc faire de vous finalement des personnes qui vont toujours courir après la récompense immédiate et pas se préoccuper des conséquences à long terme, que ces petites différences au départ peuvent à terme aboutir à des énormes différences au niveau des destins individuels. Et donc du coup, il serait... Enfin, je pense qu'au niveau de l'école, enfin, si les neurosciences peuvent avoir une implication, c'est que ces différences au départ, ce n'est pas des différences liées génétiquement, hein, c'est pas, on n'a pas des différents gènes, etc. C'est lié au développement de l'enfant, c'est lié à ce qu'on va lui inculquer, etc. Et donc, du coup, il y aurait peut-être une réflexion et du travail à faire pour promouvoir l'éducation des capacités de contrôle cortical de manière à rendre les individus plus libres et plus à même, finalement, à orchestrer finalement leur destin en ayant un peu de plaisir de temps en temps, mais en n'oubliant jamais, quand même, que le plus grand plaisir vient après y avoir résisté pendant quelque temps. Merci pour votre attention.
Bon, mais merci beaucoup. C'était un exposé extrêmement passionnant. Je ne vais pas broder autour de suite. J'aurai certainement beaucoup de questions à poser, mais c'est un collègue que je rencontre aussi souvent que je le souhaiterais. Je vais passer tout de suite la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions que vous souhaitez faire pour réagir à la présentation de Serge? Les premières questions sont toujours les plus difficiles, mais une fois qu'une une ou deux personnes se sont lancées, on n'arrête plus la salle.
Il y a une question là.
Mais il vous a cité plusieurs fois, mais je ne pense pas que c'était volontaire.
Alors, je déteste le quick. Donc, on n'a pas parlé de la sérotonine. Et notamment sur les relations amoureuses, il y avait pas mal de choses sur la dopamine qui, au bout de 3 ans, justement, les fameux 3 ans, ce système de récompense était substitué par un système avec qui impliquait la sérotonine. Et bon, je ne vais pas dans les études pousser là-dedans, mais est-ce que la sérotonine est elle aussi un système bien connu? Est-ce qu'il y a un système de régulation qui aussi dépend du préfrontal, enfin d'inhibition de ce système de récompense?
Oui, c'est une bonne question. La sérotonine, on va dire que de manière vraiment très schématique, hein, parce que le système sérotoninergique est un système qui est encore plus diffus que le système dopaminergique. Il est donc plus difficile à étudier de ce fait, mais on a tendance finalement à plus l'impliquer dans effectivement l'image en miroir du système dopaminergique, plutôt un système d'inhibition du comportement. Donc il va aller plutôt de pair effectivement avec une fonction corticale, et donc du coup, par exemple, la sérotonine au niveau du cortex préfrontal est très connue pour moduler les capacités de contrôle cortical sur justement l'activité des structures sous-corticales. Au niveau des drogues, ce qu'on sait, c'est que contrairement au système dopaminergique, si par exemple vous détruisez les neurones dopaminergiques de plusieurs manières différentes, qui projettent du mésencéphale vers le striatum, vous abolissez le comportement d'auto-administration d'un certain nombre de drogues, alors que vous pouvez détruire tout le système sérotoninergique du cerveau sans altérer, en fait, de manière, on va dire, claire la prise de drogue. En fouillant un petit peu, en testant les animaux dans différentes situations, on pourrait voir quelques différences, mais globalement, il n'y a pas d'effet aussi marqué qu'on peut l'avoir avec une destruction des neurones dopaminergiques. Ça répond un peu à votre question?
Oui. D'accord.
Ah, d'accord. Mais disons, la question, c'est donc, à côté des neurones dopaminergiques, on a d'autres neurones qui sont un peu, on va dire, ils ont un peu un mode de fonctionnement. Enfin, au niveau anatomique, on pourrait peut-être les comparer aux neurones dopaminergiques, c'est-à-dire qu'ils sont localisés de manière discrète également dans ces régions-là du cerveau. Et ils vont projeter de manière très diffuse dans toutes les régions du cerveau, et pas dans toutes, hein, mais je veux dire dans beaucoup de régions du cerveau, et de manière encore plus diffuse que les neurones dopaminergiques, dans ce qui fait que c'est très difficile d'aller étudier ce système, parce qu'il est tellement diffus, beaucoup plus diffus que le système dopaminergique, d'accord? Donc ça, c'était le premier élément. Ensuite, la question, c'était, est-ce que ce système sérotoninergique, quel est le rôle qu'il pourrait avoir également dans les drogues? Je disais que, de ce que l'on en sait aujourd'hui, son rôle n'est pas aussi fondamental dans les phénomènes de récompense que le système dopaminergique, et que le troisième point, c'est que s'il avait un rôle, il avait un rôle plutôt opposé, plutôt inhibiteur, plutôt, on va dire, un peu préfrontal, pour caricaturer, bien sûr, d'accord? C'est-à-dire qu'il est plutôt impliqué dans les phénomènes de punition et d'inhibition du comportement, pour caricaturer, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais grosso modo, c'est ça.
L'un des éléments clés, pardon, contre l'implication de la sérotonine dans l'addiction, ce sont les antidépresseurs. Les antidépresseurs agissent au niveau moléculaire sur la transmission sérotoninergique de la même manière que la cocaïne agit sur la transmission dopaminergique. Or, les antidépresseurs n'ont pas d'effet addictif. Ils ont des effets secondaires, ils ont des conséquences, mais ce n'est pas des molécules dont on a du mal à se détacher. Ils ne créent pas d'addiction. Les gens ne consomment pas d'antidépresseurs au-delà de ce qu'il faut, ne perdent pas le contrôle de la consommation d'antidépresseurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais passer la parole à la professionnelle.
Non, j'avais beaucoup de questions, moi aussi je ne voulais pas intervenir maintenant, mais comme j'ai le micro,
Tu as parlé effectivement de la question préfrontale comme un trait qu'elle peut prédisposer à l'addiction. Peut-être tu pourrais aussi parler de la question préfrontale après addiction. Donc, est-ce que les drogues, elles vont influencer ces systèmes et comment? Donc, et c'est tout avant qu'on a déjà décidé si on devient dépendant ou pas, ou il y a un rôle des drogues sur ces systèmes.
Est-ce que l'addiction va chanter son contrôle préfrontal?
Est-ce que la prise de drogue en tant que telle va finalement amoindrir ce contrôle cortical et finalement perpétuer le cycle de l'addiction quelque part? Donc au niveau des données qu'on a chez l'homme, très clairement, jusqu'à aujourd'hui, la balance est en train de pencher plus du côté des prédispositions. Donc il y a une étude récente de Cambridge qui montre que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié donc, des personnes qui ont développé une addiction à la cocaïne et à d'autres psychostimulants. Ils ont regardé leur cortex préfrontal et ils ont regardé également chez les frères et sœurs, d'accord ? Et donc chez ensuite des personnes non apparentées qui n'avaient pas développé l'addiction. Et les frères et sœurs non plus n'ont pas développé l'addiction. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les anomalies corticales qu'ils avaient observées chez les personnes qui avaient développé l'addiction étaient présentes, de moindre mesure, mais présentes significativement chez les frères et sœurs, indiquant que cette anomalie corticale était précédée l'addiction et prédisposée à l'addiction. Après, bien sûr, se pose la question, mais pourquoi les frères et sœurs qui ont cette anomalie ne l'ont pas développée ? Eh bien, c'est probablement lié au fait. Donc, vous pouvez très bien avoir une prédisposition biologique, mais si vous n'avez pas la trajectoire historique, individuelle, et les expériences et les rencontres, des rencontres identiques, vous n'allez pas forcément développer telle et telle anomalie du comportement. Il y a aussi une question d'opportunité, si je puis m'exprimer ainsi. C'est clair la réponse, Marcello ?
D'accord. Et est-ce qu'il est possible de rééduquer le lobe préfrontal, et comment, c'est de la psychologie, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme moyen justement?
Donc il y a de jolies études récentes qui montrent qu'effectivement on peut, moi j'aime bien utiliser le mot muscler le cortex préfrontal, donc en donnant la possibilité à des personnes d'exercer ces fonctions d'inhibition dans des tests qui implique ce cortex préfrontal, comme par exemple réaliser une tâche en gardant en mémoire de l'information, mettre la personne dans des situations où elle doit effectivement résister à la récompense immédiate pour pouvoir obtenir des gains supérieurs, par exemple dans des jeux sur ordinateur, etc. Et donc à travers toute une batterie de tests comme ça, on a pu réentraîner ces fonctions corticales chez des personnes qui souffraient d'une addiction aux psychostimulants et en particulier la cocaïne, et ça a eu des effets très significatifs sur leur capacité à rester abstinence au cours d'un traitement. Donc ça vient juste de démarrer, ça a quelques années, mais du coup c'est une piste super intéressante. Nous au laboratoire, on travaille sur ce sujet qu'on considère très important, parce qu'on considère que ce cortex préfrontal, il n'est pas perdu justement quelque part. On peut justement le... C'est, exactement. Et on peut même imaginer la chose suivante. Moi, c'est une idée que j'ai souvent en tête, c'est que les anomalies dont je parlais avec Marcello tout à l'heure, je ne suis pas en train de dire que c'est des prédispositions liées à des facteurs biologiques antécédents. Et ça renvoie à des problématiques chères à Mohamed et à Marcello sur l'environnement au cours du développement, etc. On peut très bien imaginer la chose suivante, c'est que si vous... Et c'est souvent le cas d'ailleurs, les enfants qui ont des difficultés d'inhibition sont des enfants qui vivent avec des parents qui eux-mêmes ont des problèmes justement d'alcool, ils vivent dans des situations socio-économiques défavorisées, et donc du coup c'est des gens qui ont tendance à vivre dans le présent. Et donc du coup, élever un enfant avec des parents qui ne projettent pas leurs enfants dans un futur possible, etc., et bien du coup, ils n'utilisent pas ce cortex préfrontal. Et moi ce que je soupçonne, c'est que le fait de ne pas utiliser chroniquement son cortex préfrontal, eh bien, ça ne l'aide pas à se développer normalement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être rattrapé par la suite si on fait les efforts, etc., ou on crée les circonstances nécessaires. Et donc, du coup, ce contexte-là me permet de dire qu'effectivement, une des grandes pistes de lutte contre ces phénomènes d'addiction, c'est justement de remuscler ses capacités corticales. Alors, il faut trouver peut-être des moyens plus efficaces que ceux dont je parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, je trouve que c'est une piste vachement intéressante à poursuivre. Et nous, on travaille dessus au laboratoire.
Je fais vite. Mais c'est aussi, on parle beaucoup de consommation immédiate dans la société. Il faut tout rapidement. Il faut, voilà. Et en fait, ça correspond à ce que vivent la génération des jeunes. Et donc, ça veut dire que c'est, là, on passe vraiment par une nouvelle éducation. Et quelque part, on va vous dire que vous retournez en arrière, même si, je suis assez d'accord avec vous là-dessus, c'est le travail, un objectif, le travail, etc. Mais c'est vrai que ça paraît pas évident à mettre en œuvre. Mais
ça va être... Non, mais vous avez raison.
Avec
ça,
Internet, tout va très vite.
Ça va être hyper difficile. Ça va être... Mais là, c'est vraiment... Enfin, là, on rentre dans un sujet difficile, mais qui... On va dire, c'est un sujet, on va dire, société-cerveau. On ne peut pas, si vous voulez, notre cerveau, enfin moi personnellement, ce que je pense, c'est que ces capacités, on parle souvent de libre arbitre, de liberté individuelle, etc. Je pense qu'un homme n'est libre, vraiment, que s'il est capable de se contrôler. Mais pour qu'il puisse se contrôler, il faut qu'il voie le futur et qu'il envisage différentes options et qu'il pense qu'il a différentes options ouvertes, d'accord ? Et donc, du coup, le problème, c'est que, comme vous le dites, notre société a évolué vers, on va dire, quelque chose d'autre. Nos sociétés sont devenues impulsives. Et donc, comment demander à nos enfants, quelque part, qu'ils ne soient pas impulsifs alors que la société elle-même est impulsive, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas très loin. La visibilité de la France, aujourd'hui, c'est quoi, 3-4 ans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est impensable. Il y a 30-40 ans, on voyait beaucoup, beaucoup plus loin. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la France, l'Europe, les États-Unis ne puissent pas voir plus loin que 3-4 ans? C'est insensé quand on y réfléchit. Oui, tout à fait. Donc du coup, effectivement, comment reprogrammer, entre guillemets, notre cerveau lorsqu'il est baigné dans une ambiance sociétale comme ça? Honnêtement, je n'ai pas la réponse, quoi. Si vous l'avez... Ça, c'est une question qui revient souvent. Moi, je dirais très honnêtement qu'on l'utilise quasiment au max. D'accord ? Et je vais vous donner un exemple très clair qui va peut-être vous surprendre. C'est que donc un cerveau humain adulte moyen consomme 100 grammes de glucose par jour pour son fonctionnement. D'accord ? 98 grammes sont utilisés tout simplement pour... Quand je ferme les yeux, que je laisse ma pensée errer comme ça, sans aucun effort, etc., en faisant ça, je dépense 98 grammes. D'accord ? Les 2 grammes restants, c'est pour... allez, j'espère être un peu créatif. C'est pour toute ma créativité scientifique. Tous les moments où je vais penser de manière très, très intense à des problèmes, essayer de les résoudre, je vais dépenser que 2 grammes pour ça. Donc, grosso modo, vous voyez la différence ? Si je dépense 98 grammes juste en maintenance de fonctionnement de mon cerveau, et je ne dis pas que c'est rien, attention, hein, puisque toute cette activité consciente, on va dire, c'est la base de cette activité consciente qui me permet de créer, d'imaginer, de résoudre des problèmes, etc. Mais ça veut dire que quand je fais plein d'efforts pour penser, pour réfléchir, pour résoudre des problèmes, eh bien ça ne crée qu'un petit différentiel de 2 grammes. Donc j'ai du mal à imaginer... que si j'utilisais que 10% ou 20% de mon cerveau, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une différence encore plus grande entre la consommation de base et la consommation qui implique des processus de pensée très actifs? Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair?
Oui, J'ai suivi passionnément l'explication et j'ai bondi intérieurement quand j'ai entendu prononcer d'un seul coup dans la bouche d'un scientifique le mot liberté puis le mot égalité. Ensuite, ça m'a beaucoup rassuré d'entendre qu'effectivement cette zone préfrontale était en grande partie quand même construite par notre histoire pour réentendre parler de libre arbitre, et j'ai peur qu'il y ait un petit peu mélange des genres. Ça ne veut pas dire grand-chose de dire on est libre de refuser. Vous venez d'expliquer que certains peuvent refuser et d'autres ne peuvent pas refuser de par leur histoire. Donc le discours sur la liberté est peut-être pas très fondé par rapport à ça. Et peut-être que ça nous dérive sur une question morale plus que sur une question réellement scientifique.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est totalement conditionné par notre histoire, c'est ça ?
Enfin, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mot liberté, je ne l'ai pas compris par rapport à l'explication scientifique que vous donniez avant, d'autant plus que vous l'avez contredite à 3 ou 4 reprises dans votre discours.
Non, mais vous avez raison. Enfin, disons que si on parle au sens stricto sensu de liberté, de libre arbitre, ça implique... Bon, c'est des questions qui sont très difficiles. Je pense qu'on pourrait passer toute une soirée. J'aimerais bien, si vous voulez, vous pouvez me réinviter sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc, comme vous le savez...
Je vous rassure, moi aussi.
Ouais, je m'en doutais un petit peu. Mais donc, si vous êtes au fait de ces questions, vous savez très bien que le débat entre le déterminisme et, on va dire, donc les positions déterministes et les positions, je ne sais pas comment les traduire en français, mais ce qu'on appelle, vous savez, les positions où on accorde à l'individu une liberté, on va dire, réelle et parfaite, Ce débat n'est pas encore tranché, d'accord ? Et c'est vrai qu'un scientifique qui travaille sur le cerveau, il est, on va dire, face à un paradoxe, puisqu'il parle d'un objet qui est un objet matériel, qui est déterminé par des lois physico-chimiques, si on descend au niveau le plus élémentaire de la mécanique quantique, on sait très bien qu'il y a des phénomènes d'indétermination, mais que l'indétermination de ces événements ne nous offre pas forcément la liberté, puisque, comme vous le savez très bien, le déterminisme ou l'indéterminisme physique, c'est grosso modo, ça a les mêmes conséquences sur le problème de la liberté humaine, d'accord ? Et donc, une position intermédiaire entre les deux, moi, personnellement, j'ai lu tous les grands philosophes sur la question, je n'ai pas trouvé un philosophe qui me convainc sur une troisième voie, d'accord ? Et qui donc permet, validerait cette notion de liberté individuelle, mais moi je l'emploie au sens courant du terme, c'est-à-dire quand on dit qu'un individu libre, c'est-à-dire un individu qui, au moins de manière consciente par rapport à lui, a le sentiment subjectif qu'il a plusieurs options possibles et que c'est par rapport à ces options possibles qu'il peut faire des choix. C'était juste par rapport à ça. Après, qu'il soit réellement libre, ça c'est un autre problème. Moi, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, ça peut paraître un peu du gloubi-boulga conceptuel, mais bon, vous imaginez très bien qu'on est dans une discussion grand public. J'ai essayé d'utiliser des termes, là, c'est vrai que liberté, au sens où on le définit de manière courante, quoi. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que je suis libre de faire des choix, que mes choix sont possibles, d'accord ? Et quand je parlais tout à l'heure de l'histoire, et que le fait que l'histoire pouvait effectivement influer sur ses capacités de contrôle préfrontal, je ne voulais pas dire déterminer totalement. Ce que je voulais dire, c'est influencer un facteur, d'accord ? Et j'avais bien insisté sur le fait que malgré cette histoire-là, on pouvait, à chaque instant de notre vie, reprendre un petit peu notre destin en main et redevenir libre, mais au sens où je le définissais tout à l'heure. Mais on peut rediscuter de ça de manière plus poussée. Mais je vous remercie pour cette question. C'est vrai que c'est un peu paradoxal.
La question est beaucoup trop tentante pour moi pour laisser mon collègue se l'accaparer. Alors, je ne parlerai pas de liberté, mais par contre d'égalité. Les scientifiques, puisque vous avez interpellé les scientifiques que nous sommes, nous avons travaillé, Serge et moi, on s'est croisés pendant quelques années dans le même laboratoire, sur la question de l'inné et de l'acquis. Donc ça rappelle un peu le déterminisme d'une certaine manière. Alors nous, les scientifiques, on l'appelle maintenant le génétique et l'environnement, parce qu'on considère que l'inné, c'est génétique et que l'environnement, c'est de l'acquis. Et donc nous avons été dans un laboratoire où nous-mêmes et des collègues ont travaillé sur ces notions-là. Et aujourd'hui, avec Marcello, on travaille sur l'environnement. Bref, Nous avons montré chez des souris, pour parler science, que des souris qui sont génétiquement identiques, donc tout comme des frères ou sœurs jumeaux peuvent l'être, donc génétiquement parfaitement identiques. Vous stressez une souris et pas l'autre, et la souris stressée va prendre beaucoup plus de drogue que la souris non stressée. Du moins, ça, on le savait, certes, mais on a été regarder quelles sont les implications au niveau cellulaire, les cortisones, etc. Et nous avons montré que même si génétiquement vous êtes égaux, si vous avez une expérience de vie néfaste, ça va créer une inégalité et le stress va créer une différence. Et donc, effectivement, vous n'êtes plus libre puisque vous, votre expérience personnelle va vous driver vers la prise de drogue. Donc ça, c'est l'effet environnement. Et avec Marcello Solinas, on montre exactement l'inverse, à savoir, vous mettez des animaux génétiquement identiques dans un environnement favorable ou un environnement de base, et les animaux dans un environnement favorable prennent beaucoup moins de drogue que les animaux dans un environnement normal. Et donc, l'environnement stimulant enrichi protège contre la prise de drogue. Donc, même génétiquement identique et génétiquement égal, l'expérience de vie peut être néfaste ou positive. Alors, vous allez dire, ça c'est connu. Oui, mais nous, scientifiques, on va creuser ça. On va regarder les molécules, les neurotransmetteurs, qu'est-ce qui fait que... Et de l'autre côté, sur la base de génétique, on a pris des souris qui sont génétiquement identiques et on a fait ce que Serge a appelé tout à l'heure des souris transgéniques. Ça veut dire qu'on a pris des souris qui sont génétiquement identiques base par base. C'est vraiment des frères jumeaux. Et on a changé une seule protéine par manipulation génétique, ce qui fait que les souris sont nées identiques génétiquement, sauf une protéine. Tout le reste, c'est pareil. Vous les mettez en photo, c'est les... Bon, on a remarqué que les souris se ressemblent beaucoup, mais bon, bref. Vous m'avez compris, hein? Eh bien, la souris chez qui on a changé une protéine, et une seule parmi les plus de 30 000 protéines qu'on a, on a beaucoup plus que ça en fait. Eh bien, cette souris à qui il manque une protéine ne prend plus du tout de drogue. C'est comme si elle prenait, c'est comme si c'était du sel, quoi. D'accord ? Donc il y a une part, alors c'est ce que j'ai dit tout le temps à mes étudiants, mais on ne va pas s'en lancer là-dedans non plus, parce que sinon on en a pour des heures. Nous sommes, j'espère, égaux en droit, du moins dans un pays tel que la France. Mais nous ne naissons pas égaux sur le plan génétique. Nous sommes plus ou moins ici prédisposés à des maladies génétiques, mais l'environnement dans lequel on vit, notre acquis, va énormément agir, tel que même si nous avons une prédisposition génétique positive ou négative, l'environnement va jouer un rôle extrêmement important pour vous précipiter ou pas vers une pathologie. Je ne sais pas si j'ai dévié, mais vous avez sollicité les scientifiques, je n'ai pu que rebondir là-dessus.
Oui, bah, je vais revenir sur le circuit dopaminergique et je me posais la question de savoir s'il fonctionnait pareil pour les addictions sans produit.
Ouais, donc il fonctionne, enfin il n'est pas sollicité de la même manière, hein, puisque donc avec les drogues, on est d'accord que ce sont des molécules qui vont aller interagir directement sur le système dopaminergique, alors qu'en réalité, pour par exemple prenons le jeu vidéo. Ça va être par l'intermédiaire en fait, de perception visuelle. Donc, ils vont faire intervenir d'autres parties du cerveau. Mais in fine, cela va se traduire par une activation dopaminergique. Et cette activation dopaminergique, dans certaines circonstances, donc chez des individus qui ont justement, du fait du développement, comme je le disais tout à l'heure, un cortex préfrontal moins développé, moins fonctionnel d'une certaine manière... Le fait qu'elles vivent aussi dans un environnement peut-être qui offre moins d'alternatives, c'est tous ces facteurs combinés, plus aussi cette activation du système de récompense peut conduire au fait que la personne va répéter excessivement cette activité de jeu au détriment d'autres activités, donc par exemple réviser ses cours chez un adolescent pour réussir son année scolaire et donc créer des difficultés ultérieurement. Mais donc le principe de base est le même, d'accord ? Et donc par exemple pour le jeu, les jeux d'argent en particulier, comme vous le savez, en fait ça date d'à peine un an, on les a maintenant catégorisés dans les désordres de l'usage de substances, hein, donc au même titre que le désordre de l'usage de cocaïne ou le désordre de l'usage d'alcool, etc. Donc on considère qu'effectivement il y a des points communs, tant comportementaux que neurobiologiques, entre les pathologies du jeu et les addictions aux drogues. Vous voulez peut-être en savoir un petit peu plus ?
Non, c'était juste principalement pour les adolescents. On sait que sur les accros aux jeux vidéo, on est plutôt sur des catégories socioprofessionnelles plutôt élevées, alors que sur les produits, on est plutôt sur des catégories socioprofessionnelles plus populaires, je veux dire.
Donc vous avez un gradient socio-économique opposé, vous dites, pour les jeux ? Ça m'étonne, ça.
Sur les enquêtes OFDT, oui, c'est ce qu'on
trouve. Ah oui, c'est vrai ? Ouais. D'accord. Intéressant. Enfin, que je regarde.
Bonjour. Première question. Vous avez parlé tout à l'heure du circuit de la récompense dans l'évolution. À partir de quand, dans l'évolution, apparaît le circuit de la récompense ? Est-ce que c'est chez tous les animaux ?
Il y a des neurones, on va dire équivalents aux neurones dopaminergiques chez des invertébrés très élémentaires, comme certains vers nématodes, et qui ont des fonctions dans la régulation du comportement qui sont à peu près effectivement identiques à celles que l'on observe chez les vertébrés.
Et donc qui du coup sont sensibles aux drogues aussi.
Et qui du coup effectivement sont sensibles aux drogues. Je vais vous donner un exemple, par exemple, donc, chez l'abeille, hein, butineuse, on a l'équivalent du système dopaminergique. En fait, c'est utilisé un neurotransmetteur apparenté qui ressemble à la dopamine. Et lorsque... donc il y a des expériences qui ont été faites où on a mis un peu de cocaïne dans le nectar donc là c'est des expériences, donc ce qu'on fait c'est qu'on crée des fleurs artificielles dans lesquelles on met un nectar artificiel et dans lequel on met de la cocaïne, et en fait ce qu'on a observé c'est que les abeilles qui vont butiner ces fleurs qui contiennent de la cocaïne, lorsqu'elles reviennent à la ruche, elles disent à leurs camarades, vous savez, grâce à leur danse, purée, là-bas, il y a de ces fleurs. Et donc, toutes les abeilles, en fait, elles y vont après, d'accord ? Donc, du coup, la cocaïne agit, en fait, dans ce mini-cerveau qui est quand même assez développé, de la même manière que ce qu'on peut observer chez le rat ou la souris et chez l'homme également. Ça me permet de développer un autre truc, parce que c'est un mystère dont je voulais vous parler tout à l'heure, mais... j'ai pas eu le temps de l'aborder. Imaginez que la plupart des drogues, finalement, ont toutes, d'une manière ou d'une autre, sauf les dernières drogues de synthèse, une origine végétale. D'accord ? Or, le but essentiel au départ, c'était de créer des molécules d'ordre défensif. C'est-à-dire de... Et la meilleure façon, finalement, de perturber un animal qui veut vous manger, pour une plante, c'est de cibler... finalement, un système qui est commun à tous les animaux, parce qu'une plante peut se faire bouffer par des insectes, des herbivores, on peut imaginer toute une catégorie d'animaux, d'accord ? Et la meilleure façon de cibler, c'est, bien sûr, quand je dis ça, ce n'est pas intentionnel, c'est par essai et erreur au cours de l'évolution, c'est de cibler le système nerveux, d'accord ? Par des molécules qui vont avoir un effet sur le fonctionnement du système nerveux. Et donc, prenons l'exemple, par exemple, de la nicotine, qu'on retrouve dans plein de plantes. C'est quoi la fonction de la nicotine ? C'est un insecticide à la base, hein, d'accord ? Mais le paradoxe, c'est que ces alcaloïdes, d'une manière qu'on n'arrive pas à expliquer, ont été détournés, se sont mis aussi à agir sur le système de récompense du cerveau, de telle manière que maintenant, l'homme cultive, il utilise des milliers de kilomètres carrés sur la Terre pour cultiver des plantes qui vont produire finalement ces alcaloïdes. Donc du coup, ces alcaloïdes qui étaient défensifs au départ sont devenus quelque part des trucs qui récompensent l'homme pour exister de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc l'autre paradoxe, c'est que les plantes, à défaut de penser, elles ont inventé des molécules qui permettent à l'homme finalement de s'éclater et d'aller au septième ciel et d'imaginer plein de trucs. Donc elles ont trouvé quand même, c'est quand même extraordinaire quand on y réfléchit une seconde, elles ont trouvé le moyen de moduler la pensée des autres et le comportement des animaux qui sont susceptibles de les manger. Donc c'est presque une ouverture pour elles sur le monde mental quelque part. D'accord ? Donc ça c'est vraiment on va dire un phénomène sur lequel il faudrait se pencher un petit peu plus, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à creuser là-dedans. Mais tu voulais peut-être poser une autre question, je suis un peu découragé.
Ah oui, j'ai eu récemment une étude sur l'épigénétisme. Est-ce que on observe la même chose sur le circuit de la récompense? Est-ce qu'une personne... alors, si on prend un adulte qui, à la base, n'a pas de prédisposition à la cocaïne, par exemple, consomme de la cocaïne, qui fait un enfant, qui est séparé de son enfant, est-ce que ces expériences ont été faites? Est-ce qu'on a eu des résultats qui montreraient qu'il y a de l'épigénétisme dans le circuit de la récompense?
Oui, tout à fait. Il y a des études récentes qui ont été faites chez l'Oral Laboratoire et avec une transmission paternelle qui montre qu'il y a des phénomènes d'empreinte génétique, d'ordre effectivement donc épigénétique. Hein, donc c'est là, il va y avoir des marquages au niveau des gènes qui vont faire que leur expression vont changer, etc., sans changer la séquence des gènes, et qui ont montré que les papas de bébés rats, qui avaient, donc des papas qui avaient pris de la cocaïne, enfantaient une descendance qui avait des anomalies dans leur système de récompense, de telle manière à ce que les enfants étaient plus vulnérables à la cocaïne à l'âge adulte. Donc il y a bien une transmission, on va dire, paternelle, épigénétique, de la prise de cocaïne. Donc ce n'est pas que la maman, finalement, à travers ses comportements, qui peut changer les comportements de consommation de ses enfants. C'est une étude d'un copain...
Par définition, ah,
oui.
Inversible.
Oui, oui.
Donc l'environnement va jouer beaucoup.
Exact. Ouais. Non, mais bon, c'est quand même un facteur. Un facteur dont on ne soupçonnait pas l'existence jusqu'à récemment, quand même.
Il y a une question au fond, là. Qu'est-ce que tu dis ?
Non, il y a un micro.
Merci. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la théorie selon laquelle la conscience de l'homme est apparue par la prise de champignons hallucinogènes.
Dis-moi où tu as lu ça.
J'ai appris ça à un cours d'histoire globale.
D'accord. Non, mais parce que l'auteur, c'est McKenna, c'est ça, hein, c'est McKenna qui a développé cette théorie.
D'accord, ok, je ne sais pas. Mais
donc, tu te souviens dans quoi. Enfin, tu te souviens de sa théorie, c'est-à-dire que grosso modo, ces champignons hallucinogènes poussés dans la merde de vache.
De vache, ouais, c'est ça.
Hein, c'est ça. Et donc, l'homme, finalement, aurait, on va dire, atteint son stade ultime d'évolution, finalement, en bouffant de la merde, quoi, grosso modo. Moi, je trouve que c'est une théorie assez intéressante. Mais après, si tu veux, en termes fonctionnels,
c'est énorme.
Écoute, je pense ouais. Mais là, c'est juste une opinion. Enfin, je n'ai aucune évidence sérieuse. Hein, mais je pense que, par contre, le fait que certaines drogues permettent d'accéder, si tu veux, à des modes de pensée, d'imagination, etc., différents, a probablement joué un rôle. Ça mériterait d'être étudié, très honnêtement. En tout cas, je me pose sérieusement la question. Ça a probablement joué un rôle dans le développement culturel initial des premiers hommes.
Et aujourd'hui, c'est illégal.
C'est une hypothèse que je formulerai sans problème.
Aujourd'hui, c'est illégal, donc on va peut-être stopper notre développement quelque part. Quoi.
Pardon ?
Aujourd'hui, vu que les drogues sont illégales, ça veut dire peut-être qu'on espère stopper notre développement.
Non, maintenant, si tu veux que... Non, le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est que c'était bien pour le tremplin de départ. Mais si tu veux, le truc,
pourquoi
c'est que... Mais c'est que maintenant, si tu veux, on a... Grâce à notre imagination, on n'a plus besoin des drogues pour atteindre ces niveaux-là de pensée et de conscience, à mon avis. Hein.
Oui, mais ça favorise quand même. Ça aide. De mon point de vue personnel.
De ton point de vue personnel.
Mais je pense qu'il est pas il est partagé par d'autres personnes aussi. Hein. Mais voilà.
Bon, écoute, donc j'espère que tu seras le prochain maillon dans l'évolution future de l'homme. Alors.
Ah, c'est déjà en cours. On a un projet. On peut parler des conséquences des prises de drogue sur le fonctionnement du cerveau, quand même. Hein. Non, mais on peut parler des conséquences. Ça, c'est une conséquence.
Bonjour. Je voudrais juste poser une question. C'est par rapport aux neurones dopaminergiques. En fait, ils créent une molécule. Je voulais savoir s'ils créent une molécule qui s'appelait la dopamine et comment après elle agissait sur nous. Quoi. Voilà. J'ai pas peut-être tout compris, mais.
Je vais laisser la parole à notre éminent spécialiste du système dopaminergique.
Ah,
C'est la seule question que j'ai pas compris.
C'est quoi, c'est les neurones dopaminergiques? Qu'est-ce qui produisent de la dopamine? C'est ça? Ah, comment ils produisent ? C'est une synthèse chimique. C'est une sable.
Ah, la question, c'est ce que.
C'est une synthèse chimique. Ça veut dire que les cellules nerveuses ont des usines à l'intérieur, comme toutes les cellules, et ces usines chimiques vont fabriquer ce neurotransmetteur qui est la dopamine, à partir d'un précurseur qui est issu de l'alimentation, qui est la tyrosine.
Ouais, mais la dopamine, donc c'est une molécule ou alors c'est.
C'est une molécule, oui.
Ah, c'est une molécule qui circule de synapse en synapse.
C'est une molécule extrêmement simple, formée de quelques atomes agencés. Et la cocaïne et l'amphétamine ressemblent beaucoup à la dopamine. C'est une molécule très simple, très facile de synthèse. Elle est synthétisée à partir d'un précurseur et il suffit de deux synthèses chimiques pour y arriver. Pour tout vous dire, c'est tyrosine, L-DOPA, dopamine. Donc c'est une synthèse chimique, il n'y a pas de plus facile.
Non, mais ce que je voulais vous demander, c'est une molécule qui circule d'un synapse à un autre, c'est ça ?
Oui, absolument. C'est l'un des schémas que tu as montré tout à l'heure. Hein ? Voilà, on est là. Donc c'est un neurone qui contacte un autre. Ce que vous voyez ici en tout petit, c'est la dopamine. Et les neurotransmetteurs, la plupart en tout cas, ont ce type de formule chimique. On peut les compter. Il s'agit d'une dizaine de molécules agencées. C'est extrêmement simple comme molécule. Hein. C'est, y a rien, hein.
Et après, ça crée un sentiment de bien-être.
Bah, disons, pour aller jusqu'à la vulgarisation, jusqu'au bout, bien que, bon, bien entendu, les spécialistes vont discuter, on peut dire que la dopamine, c'est la molécule du plaisir, et la sérotonine, dont on a parlé tout à l'heure, c'est plutôt la molécule du bien-être. Voilà.
Ah, d'accord. Okay. Merci, monsieur.
Alors, on va peut-être prendre encore deux ou trois questions, parce qu'après, on a notre drogue à consommer, qui est l'alcool. On va prendre un verre ensemble.
On va pratiquer.
Merci. Alors, juste, je voulais faire une petite annotation sur la première... À propos du phénomène de société où il y a une nouvelle notion au DSM-5 qui est apparue, qui s'appelle le craving, qui est une envie irrépressible de consommation. Et du coup, ça rejoignait un petit peu... Donc, bon, le DSM-5, c'est à critiquer, hein, ça vient des pays anglo-saxons, mais au moins, ça permet de prendre la température de notre société. Et il y a ce nouveau phénomène qui s'appelle le craving qui est venu, c'est besoin irrépressible de consommation, qui s'est surajouté à la DSM-4. Moi, la question, c'était plutôt d'un point de vue clinique. En fait, c'était à propos de la sérotonine et la dopamine. Je suis un peu fainéant. Au lieu de muscler mon préfrontal, moi, j'aimerais savoir s'il y avait un moyen d'agir sur ce... Parce que j'ai cru comprendre, en fait, par rapport à la sérotonine, qui, elle, ne fonctionne pas pareil, que la dopaminergine, elle a un faisceau spécifique pour libérer la dopaminergine en préfrontal. Alors, la sérotonine, on avait dit que c'était beaucoup plus diffus.
Tant la dopamine que la sérotonine innervent le cortex préfrontal, même des régions superposées, mais elles vont avoir des actions différentes, modulatrices, sur cette activité neuronale dans le cortex préfrontal.
D'accord. En fait, il m'a semblé que la dopamine, enfin, les neurones dopaminergiques avaient un faisceau particulier, un bien précis. Vous l'avez dit, il n'y en a qu'un million, en fait.
Oui, ouais, ils sont moins diffus.
Ils sont beaucoup moins diffus. Et au lieu de se muscler préfrontal, est-ce qu'il y a un moyen d'agir moi, je suis fainéant. Du coup, est-ce qu'il y a un moyen d'agir sur ce faisceau pour inhiber ce système de récompense et du coup de dépendance à certaines substances ou pas substances, parce que là aussi les troubles liés à l'usage des jeux par exemple, c'est nouveau. Mais et du coup donc ça c'est une première question, et pour le matérialiser avec les AVC ischémiques, par exemple, parce que souvent, on a compris comment fonctionnait le cerveau normalement, quand on voit comment il fonctionne pas normalement. Et du coup, est-ce qu'il y a un AVC avec une localisation bien précise qui a donné quelque chose sur un comportement des patients à propos de la récompense, la dépendance ? Je ne sais pas du tout si j'ai été précis, c'est clair comme la première question.
Alors, je vais reformuler. Serge Ahmed a parlé pendant un certain temps sur le système de récompense et comment il a été mis au fur et à mesure de l'évolution pour arriver jusqu'à chez nous, si on estime qu'on est au top de l'évolution. Et pourquoi elle a perduré et pourquoi elle existe chez l'abeille ? Parce qu'il est essentiel à des comportements basiques dont dépend notre survie individuelle et les survies de l'espèce. manger. Il faut que manger vous fasse plaisir, sinon vous n'allez pas manger, vous allez crever de faim, boire et se reproduire. Normalement, le sexe vous fait plaisir. Bon, après, vous choisissez ce que vous voulez. Et donc, si vous inhibez ce système de récompense, vous allez effectivement inhiber le craving à des drogues d'abus, mais vous risquez aussi d'inhiber les systèmes de récompense naturels. Et d'ailleurs, Serge travaille là-dessus, ça va, on est quelques-uns, la différence entre récompense naturelle et récompense artificielle. Et le risque qu'on observe sur le plan pharmacologique, c'est qu'effectivement, peut-être que vous allez avoir moins besoin de drogue, mais le monde entier autour de vous risque de devenir complètement terne. Vous n'aurez plus envie de grand-chose. Et donc, le risque est important. Maintenant, vous parlez de l'AVC, n'allons pas très loin. Parlons de Parkinson, la maladie de Parkinson touche les neurones à dopamine, détruit les neurones à dopamine. Et parmi les conséquences de la maladie de Parkinson, il y a bien entendu les conséquences sur la motricité que nous connaissons tous, hein, inhibition de la motricité, difficulté à initier les mouvements, etc. Mais, comme Serge le sait très bien aussi, il y a Pierre-Olivier Fernagut qui travaille là-dessus dans votre unité de recherche, l'une des conséquences de la maladie de Parkinson qui détruit ces neurones à dopamine, c'est l'anhédonie. C'est justement l'antagonisme de craving, c'est les personnes sont peu motivées. Ils ne sont pas dépressifs, ils ne sont pas forcés, ce n'est pas la définition de la dépression. Ils sont peu motivés, ils n'ont pas envie, ça ne les intéresse pas. Dès que vous touchez le système de récompense, les conséquences sur le comportement sont immédiates et elles sont dans le mauvais sens.
Est-ce que ça s'est vu
cliniquement ? C'est pour ça que je te conseille de muscler ton contexte préfrontal.
Absolument, ça s'est vu cliniquement chez les parkinsoniens. Et il y a des médecins qui travaillent là-dessus.
Et du coup, c'est sur le système striatum, en Absolument. Fait. C'est le striatum qui déconne. Donc dès qu'on a un AVC sur le striatum, notamment, on coupe le faisceau dopaminergique. Et on a des problèmes anhédonie, bradykinésie et tout. D'accord.
Encore une ou deux ?
La prochaine étape de l'évolution se manifeste à nouveau.
Oui, donc vous êtes bien revenu sur le système de récompense et la dopamine donc dans ce système. Et en fait, moi, je voudrais savoir... selon les différentes drogues, en fait, au niveau clinique, on sait qu'il y a différents effets. N'importe quel consommateur vous dira que les effets des drogues ne sont pas les mêmes. Et il y a certains consommateurs qui préfèrent certaines drogues et d'autres drogues. Est-ce qu'au niveau cérébral, est-ce qu'on retrouve des effets différents selon les neurotransmetteurs ? Enfin, quels neurotransmetteurs en fonction de quelle drogue,
oui,
etc.
Oui, oui. Là, moi, j'ai insisté que sur le système de récompense hein, pour vraiment vous donner un exemple justement de mécanisme neurobiologique qui peut nous amener à répéter à l'excès certains comportements. Mais évidemment, on prend des drogues pas que à cause du fait qu'elles activent notre système de récompense, donc notre circuit dopaminergique. Les drogues agissent sur plein d'autres structures du cerveau et vont entraîner des effets qui sont variés en fonction des structures que différentes drogues vont réussir à cibler. Donc, par exemple, les opiacés, par exemple, comme la morphine ou l'héroïne, ça va agir sur des structures qui vont moduler notre réceptivité émotionnelle, et, par exemple, créer des sensations de soulagement, de la douleur, qu'ils soient physiques ou morales, d'accord ? Réduire l'anxiété. Et ça passe pas forcément par le système dopaminergique. Et donc, du coup, ces effets-là peuvent finalement être recherchés aussi en tant que tels et expliquer pourquoi, en fonction des situations, des traits de personnalité de la personne, si elle est plus ou moins anxieuse, plus ou moins agressive, etc., elle va plutôt s'orienter vers l'alcool, cette personne X. Cette personne Y va plutôt s'orienter vers la cocaïne et cette personne Z va plutôt s'orienter vers le cannabis. C'est ce qu'on appelle la spécificité psychopharmacologique des drogues. Elles ont tout en commun d'activer le système de récompense et ça fait que ça nous pousse à répéter les comportements. Mais en plus de ça, elles créent des effets qui sont plus ou moins avantageux en fonction des individus et qui expliquent pourquoi certains individus vont préférer de prendre des stimulants et d'autres des opiacés, d'autres de l'alcool, etc. Et d'autres même faire des mélanges de toutes ces drogues. D'accord ? Pour essayer de tirer parti de tous les effets. Ça répond à votre question ?
Oui, mais en fait, je voulais voir, du coup, il y a plusieurs pharmacodépendances selon les produits. Et est-ce qu'il y a une différence d'activation de la voie dopaminergique selon selon la pharmacodépendance. On sait par exemple que la dépendance aux opiacés est beaucoup plus forte que celle aux cannabinoïdes, par exemple.
Est-ce que donc le degré d'activation du système dopaminergique pourrait permettre d'expliquer cette différence ? Non. Non. Non, parce que les opiacés, et Marcello pourra rajouter l'information là-dessus, et le cannabis, ils activent les neurones dopaminergiques à peu près d'une manière équivalente. Et les différences de dépendance sont liées à d'autres adaptations neuronales dans d'autres régions du cerveau qui n'impliquent pas forcément les neurones dopaminergiques. Tu veux rajouter quelque chose, Marcello ?
Oui, bon. Oui, bonsoir. J'avais une question par rapport aux drogues, sachant que le cerveau génère lui-même ses propres drogues. Si je prends le cas, par exemple, des endorphines ou des choses comme ça. Et donc, je voulais savoir, en fait, s'il pouvait y avoir des déséquilibres, en fait, qui se créent au niveau du cerveau, et si ça peut être généré, par exemple, par des déséquilibres alimentaires ou des choses comme ça.
Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce que le fait de prendre des drogues peut entraîner des changements dans le cerveau qui pourraient...
Non.
Donc, alors, c'est...
Non, c'était...
Est-ce que l'alimentation pourrait...
Oui, je disais qu'en fait, le cerveau peut générer lui-même des drogues.
Ouais.
Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ça peut entraîner...
Oui, d'accord, ok.
Un comportement D'accord. comme ça, et à contrario, est-ce que un déséquilibre alimentaire peut générer en fait une production de drogue ou générer une addiction particulière ?
Alors écoutez, nous, si vous voulez, on a quelques données qui montrent que les produits riches en sucre, en agissant de manière, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, mais de façon répétée, chronique, peuvent effectivement entraîner des dérégulations dans le système dopaminergique qui peuvent, à terme, conduire à des phénomènes, on va dire, d'addiction qui ressemblent à celles qu'on peut observer avec les drogues comme les opiacés, l'héroïne ou la cocaïne. Donc, par exemple, ce sont des expériences qui ont été réalisées chez l'animal, d'accord, mais après, je vous donnerai quelques exemples chez l'homme. Donc, si vous donnez à un animal la possibilité de consommer de manière excessive de l'eau contenant du saccharose, donc pendant plusieurs jours, et que vous arrêtez l'accès à l'eau sucrée, en fait, l'animal va développer des signes de sevrage qui ressemblent aux signes que l'on observe lorsqu'un animal est sevré à l'héroïne ou à la morphine. D'accord ? Et lorsqu'on enregistre sa dopamine, on voit qu'il y a une chute de dopamine pendant le sevrage qu'on observe également avec la plupart des drogues pendant le sevrage. D'accord ? Donc ça répond à votre question. Donc chez l'homme, on a pu observer, donc lorsqu'on prend un des marqueurs neurobiologiques les plus constants dans les addictions, c'est les taux de récepteurs dopaminergiques dans le striatum dont on parlait tout à l'heure. Donc dans toutes les addictions, sauf pour le cannabis d'ailleurs, ça reste un peu mystérieux, mais dans toutes les addictions, en fait, il y a une chute des récepteurs dopaminergiques dans le striatum. C'est vrai pour l'héroïne, la cocaïne, l'alcool, la cigarette. C'est vrai aussi pour la dépendance à certains anxiolytiques. Et on a récemment observé que dans le cerveau de personnes qui souffrent d'obésité morbide, il y a également une chute des récepteurs dopaminergiques dans le striatum et que cette chute de récepteurs dopaminergiques est corrélée avec certains symptômes liés à des troubles du comportement alimentaire comme par exemple le binge eating, etc. Donc effectivement, le cerveau, entre guillemets, du fait de sa propre stimulation à travers ses propres comportements de consommation qui n'impliquent pas forcément des drogues, peut finalement générer des altérations qui peuvent conduire à des comportements excessifs qui ne sont pas forcément orientés vers des drogues. Ça répond à votre question ?
Ah oui, madame ? Je voudrais revenir avec vous sur le lien qu'il y a entre la dopamine et les conduites. Et il m'a semblé avoir compris que la dopamine répondait à un principe du U inversé, où finalement il y avait un taux optimal. En dessous de ce taux optimal, on n'avait pas, soit dans l'humeur, parce que ça a été travaillé sur les fonctions cognitives, mais aussi sur la santé mentale, on n'avait pas les comportements les plus adaptés. Au seuil optimal, on était dans les meilleures réponses. Et lorsque le taux était trop important, on chutait au niveau des évaluations. Et j'étais très intéressée d'avoir votre opinion sur ça, d'avoir votre...
Oui. Donc la courbe en U inversée des performances, effectivement, ça a été observé essentiellement au niveau du cortex préfrontal, des relations entre la dopamine dans le cortex préfrontal et les performances, par exemple, en mémoire de travail. Ça, c'est des travaux qui ont été réalisés par une neuroscientifique américaine, Patricia Goldman-Rakic. Et donc, elle a très bien établi qu'effectivement, lorsque les taux de dopamine augmentent, les performances augmentent jusqu'à un certain seuil où elles sont optimales. Et lorsqu'elles continuent à augmenter, en fait, pouf, la performance chute et s'aggrave. D'accord ? Alors, le problème, c'est que quand vous prenez, par exemple, un individu qui prend de la cocaïne, je vais vous donner un exemple, là, bon, parce qu'on peut mesurer très facilement ça, les taux de dopamine chez l'animal de laboratoire. C'est que pendant une auto-administration de cocaïne, lorsque vous mettez l'animal, il est libre de choisir ses doses. Lorsqu'un animal a appris le comportement, c'est lui qui va réguler la consommation de telle manière à maintenir des taux de dopamine constants, ce pendant plusieurs heures. Et lorsque vous interrompez l'auto-administration pendant 15 minutes, vous voyez que les taux de dopamine tombent. Et donc, si vous redonnez à l'animal la cocaïne, hop, il va en prendre juste pour revenir à l'état où il était initialement. Et lorsqu'on enregistre ces niveaux, ils sont à 400% de la ligne de base, des taux qui ne sont jamais atteints, même dans les conditions les plus anormales d'activation normale du système de récompense. Et pourtant, même si ce n'est pas optimal, d'un point de vue de la performance, c'est pourtant le niveau de dopamine recherché est défendu activement par l'animal. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si, par exemple, vous augmentez la dose de cocaïne, donc vous augmentez son efficacité à augmenter les taux de dopamine, eh bien l'animal va ajuster son comportement pour en prendre moins, de manière à maintenir à peu près toujours au même niveau ses taux de dopamine. Et en fait, nous, dans les années, à la fin des années 90, on a appelé ça le seuil hédonique, le hédonique set point, on avait formulé l'hypothèse que ce niveau recherché par l'animal en fait était altéré au cours de la transition vers l'addiction, où en fait il augmentait, comme par exemple le point de consigne du poids, il était régulé à un autre niveau, ce qui expliquait les phénomènes d'escalade de la consommation de drogue. Et on a pu montrer, donc à travers tout un tas d'expériences, que c'était justement lié à la chute des récepteurs dopaminergiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait que finalement, y a un frein sur la consommation qui n'existe plus et qui fait que les individus cherchent à maintenir les taux de dopamine à des niveaux vraiment anormalement élevés. Ce n'est pas des niveaux que vous avez dans aucune condition normale, vous n'atteignez jamais ces niveaux-là. Même après un stress intense, vous n'atteignez pas ces niveaux-là. J'ai répondu à être... Bon. Il n'y a
pas deux systèmes comparables.
Non, non, non. C'est-à-dire que quand on prend une drogue, l'objectif, ce n'est pas de maintenir une performance optimale. Grosso modo.
Mais c'était en lien avec la santé mentale.
Voilà. Voilà. Parce que l'animal, de manière très intéressante, lorsqu'il est à ces niveaux de consommation de cocaïne et à ces niveaux de dopamine, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il est dans un coin de la cage et il est dans une boucle stéréotypée comportementale où il va répéter les mêmes mouvements. En général, c'est des mouvements de la tête, comme ça, de rotation, et des mouvements des pattes antérieures, des comportements qui sont vraiment bizarres et anormales quoi, pour un rat de laboratoire. Mais pourtant, c'est lui, du fait de son comportement, puisque ce n'est pas des injections forcées, c'est de l'auto-administration de drogue, c'est lui qui va au levier, c'est lui qui appuie sur le levier pour recevoir la drogue. C'est un état qui est recherché en fait, par l'animal. D'accord ? Si vous mettez une barrière, l'animal va franchir la barrière pour pouvoir accéder à son levier, pour pouvoir obtenir ce niveau de dopamine.
Oui. Merci beaucoup. C'était je pense qu'on peut applaudir notre conférencier. C'était une excellente session. Je remercie Serge d'avoir accepté notre invitation de venir. Et merci pour ta générosité, parce que tu as montré une grande générosité avec ton interaction avec le public. Merci aussi à Mendes France. Avant que les uns et les autres partent, je fais la publicité pour la semaine du cerveau. Ce, en dehors de l'action de nos étudiants en thèse dans les lycées, dans les collèges pour parler de leur expérience. Ce samedi, à Mendes France à 15h. On va projeter un film qui a été coproduit par Arte et l'INSERM, l'Institut National de la Recherche Médicale, sur notre deuxième cerveau, qui est un cerveau qui est présent au niveau de notre système digestif et dont le nombre de neurones est équivalent au nombre de cellules qui sont présentes dans le cerveau d'un chien. Et le chien, il me semble, est un animal relativement intelligent. On a un chien dans l'estomac, donc on va voir ce film ensemble et on aura le plaisir de le commenter ensemble. Merci encore et bonne soirée.